Et Michel Lancienne aussi. Et je loue le Seigneur. Prions pour nous sur Saint Médard. On a une petite assemblée là-bas. On est juste au une trentaine de personnes le dimanche matin. Et on est sur le point quand même d'acheter un bâtiment là-bas. Donc, priez pour nous que le Seigneur fasse grandir l'œuvre là-bas. Voilà, donc prions pour nous. Et ils ont déjà chanté ce matin par rapport à la lumière, n'est-ce pas? On a chanté des cantiques par rapport à la lumière. Et savez-vous que Israël devrait être en quelque sorte cette lumière pour les autres? En recevant la loi devrait rendre ce peuple plus sage que les nations autour d'eux. Les autres nations diraient, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. En effet, existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui ait aidé Dieu aussi proche de lui que le Seigneur notre Dieu? Oh, existe-t-il un autre peuple, même parmi les plus grands, qui possèdent des décrets et des règles aussi justes que ceux contenus dans l'enseignement que je vous présente aujourd'hui? Et donc, la loi devait rendre le peuple d'Israël sage et même une lumière. En fait, quand vous lisez dans Romains chapitre 2, verset 19, il parle du fait que les Juifs se considéraient comme une lumière aux nations. Oui. Donc, est-ce qu'Israël a réussi dans leur mission? Non, Israël a échoué. Ils ont fini en exil. Et donc, Dieu avait prévu que justement le Messie viendrait. Dans Ésaïe 42, verset 6, il y a le serviteur de l'Éternel qui préfigurait Jésus-Christ. Et il serait la lumière parmi les nations. Oui. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a proclamé aux hommes? Je suis la lumière du monde. Il a proclamé, je suis la lumière du monde. Et justement, c'est ce qui était intéressant, et Jésus nous surprend peut-être un peu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit ça aux chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Et c'est ça que nous voulons voir ce matin, que vous êtes la lumière du monde. Oui, Jésus est la lumière du monde, mais vous êtes la lumière du monde. Et donc ce matin, nous voulons essayer de voir ce que ça veut dire pour nous. Et donc, voilà, on a le premier point là. Donc, vous êtes la lumière du monde. Et donc, on va regarder dans votre Bible, Matthieu, pour commencer. Matthieu, chapitre 5, là. Vous connaissez, vous avez entendu ce passage. C'est le sermon sur la montagne, là. Le sermon sur la montagne. Et je vous encourage à étudier ce que Jésus dit dans ce sermon. Il y a beaucoup de choses qui nous défie, oui, qui met devant nous des défis pour notre vie chrétienne. Et donc, il a dit que vous êtes le sel de la terre dans le verset 13, et dans le verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et donc, le texte dit ensuite, là, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et prions avec moi avant de continuer, afin de comprendre ce que cette idée d'être la lumière du monde veut dire pour nous. Seigneur, nous prions maintenant que tu nous aides avec ce texte et d'autres à expliquer le sens pour que nous grandissions dans la sanctification. Que nous voyions mieux notre rôle dans ce monde Alors viens à notre secours, Seigneur. Au nom de Christ. Amen. La lumière est quelque chose employé dans plusieurs religions pour indiquer la pureté, la vérité, la connaissance et aussi la révélation de Dieu. Et les ténèbres représentent le contraire, l'erreur, le mal, le manque de connaissance. Jésus avait même dit, si un homme essaie de marcher dans les ténèbres, qu'est-ce qui arrive? Il dit, il tombe. Il tombe dans une fosse. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc l'homme a besoin de lumière. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. C'est à nous d'être en quelque sorte le conducteur des autres alors. Et le texte que nous venons de lire nous dit, le chrétien est comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Un auteur a dit, une ville serait facilement reconnue pendant la journée grâce aux bâtiments en calcaire blanc. Et qu'est-ce qui se passe la nuit pour une ville? Il y a des lampes à huile qui montrent où la ville se trouve. Donc, c'est difficile de cacher une ville. Je ne sais pas, je lisais un livre sur le fait que dans les guerres, ils essayaient de cacher les villes. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des nuages de fumée qu'ils projetaient dans l'air pendant la nuit pour cacher les villes. Ce n'était pas toujours efficace, mais ils cherchaient à cacher les villes. Mais c'est difficile de cacher une ville. Et donc pour nous, nous sommes en quelque sorte comme ces villes. C'est difficile de cacher ce qui est en nous. Et d'ailleurs, Jésus dit qu'il serait impensable d'allumer une lampe et de la mettre sous un boisseau. Ça va contre l'usage naturel d'une lampe. On le mettra sur un chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et donc, les chrétiens, am I touching the bonne chose là? Ah, les chrétiens doivent illuminer et éclairer le monde et non s'en retirer. Ils sont les agents de Dieu qui conduisent les autres à reconnaître Dieu et à le glorifier. Voilà. Des fois, les gens voient le mal dans le monde, ils cherchent à se retirer. Mais en réalité, Dieu nous a laissés dans le monde pour être les lumières de ce monde. Et on devrait briller dans ce monde. Philippiens 2:16, si vous voulez regarder le texte là, le texte dit, soyons irréprochables et purs, enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue dans laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde. Dietrich Bonhoeffer, je ne sais pas, vous le connaissez probablement, qui a souffert comme martyr pendant la Deuxième Guerre mondiale, a dit dans son livre Le coût d'être disciple, il a dit, fuir dans l'invisible, c'est renier l'appel. Une communauté de Jésus qui cherche à se cacher a cessé de le suivre. Donc, ce n'est pas à nous de chercher à se cacher. Nous sommes la lumière du monde et on devrait briller. Le disciple de Jésus doit être visible. Il ne cherche pas à cacher son identité comme disciple, car son désir devrait être briller dans le monde. Et en tant que chrétien, être la lumière du monde fait partie de ce que nous sommes, de notre nature. Regardons dans 2 Corinthiens 4. Dans 2 Corinthiens 4. C'est un très beau texte ici, j'aime bien ce texte. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, ce qu'il a fait lors de la création, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pensons à ça, la connaissance de la gloire de Dieu qui était sur la face de Christ devrait briller dans notre cœur. Comment est-ce que ça pourrait être vrai? Comment est-ce que Dieu fait ça? Comment est-ce qu'il fait ça? Il met en nous l'Esprit Saint. Le chapitre 20 parle de ce fait que nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous avons reçu l'Esprit. Regardons verset 3 de chapitre 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et justement, c'est le ministère de l'Esprit, l'action du Saint-Esprit, que cela est vrai. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est à nous de briller à force de laisser l'Esprit avoir sa place. Nous ne cherchons pas à cacher cette lumière. Ce qui distingue l'Église de tout club, toute association, parce que les villes, ils ont des associations. J'ai fait partie d'une association de tennis de table. J'aime bien jouer. Je perds beaucoup, mais j'aime bien jouer. Ça encourage les autres, n'est-ce pas, quand ils te battent. Ouais, oui. Mais en tout cas, je suis là pour être en quelque sorte une lumière dans ce club. Mais le club, il y a un certain esprit là, une certaine communauté, mais ça n'a rien à voir avec l'Église. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est ce qui rend l'Église différente. Et vous avez avec vous, dans le monde, le Saint-Esprit. Et vous êtes alors une lumière pour les autres autour de vous. J'aime bien les phares. Je ne sais pas si vous aimez les phares sur les côtes, mais ils sont des petites œuvres d'architecture magnifiques. Mais elles ont une utilité importante. Ils guident les bateaux, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait des accidents. Et nous sommes aussi comme ces phares pour les gens autour de nous, pour les guider, oui, vers la vérité, pour qu'ils arrivent au bon port dans la vie, pour qu'ils connaissent le Seigneur. Voilà. Et cette lumière vient de l'intérieur du phare, n'est-ce pas? Le phare a une lumière à l'intérieur, et nous avons aussi cette lumière à l'intérieur de nous en tant que chrétiens. Nous voyons dans une deuxième partie, vivons comme les enfants de lumière. Oui. Paul dit, regardons dans Éphésiens 5 avec moi. Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5 et verset 8 là, nous lisons un texte là, ils disent « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Et donc, Paul dit ici que vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Et donc on devrait nous comporter comme les enfants de lumière. Comment est-ce qu'on peut le faire? Le verset 9 nous dit là, la fuite de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oh, c'est juste un texte si ça vous intéresse. Ézéchias, dans l'Ancien Testament, était un tel homme qui vivait de cette manière, 2 Chroniques 31-20, par du fait qu'il faisait du bien, ce qui est droit et ce qui est vrai. Donc, on parle d'Ézéchias dans 2 Chroniques 31-20. Mais nous faisons des actes de bonté envers les autres. J'espère que vous cherchez des occasions de faire du bien autour de vous. Car Éphésiens 2:10 dit, « Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Et donc, il s'agit de bonnes motivations et le fait d'éviter le mal, mais aussi de faire des actes de générosité envers les autres. De faire ce qu'on peut pour ceux qui sont dans la difficulté. Ne reculons pas devant les occasions pour aider les autres. Rappelons-nous souvent l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain? Qui passait à côté de la situation? Les gens religieux. Le prêtre et puis le lévite. Et qui l'a aidé? Un homme avec de mauvaises doctrines. Un homme qui n'était probablement pas vraiment un croyant. S'il suivait ce que les Samaritaines ont enseigné. Mais c'est lui qui a aidé. Et c'est dommage dans notre monde que parfois les gens du monde, ils vont aider. Et nous les chrétiens, nous n'aidons pas. Je pense que des fois, il y a presque une peur chez les évangéliques. On sait qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, donc on ne veut pas donner l'impression qu'on croit ça. Ou que ce n'est pas important de faire les bonnes œuvres. Non, c'est important. Ça fait partie de briller devant les autres. Et donc, Jean-Baptiste et Jésus, tous les deux, parlaient de donner à ceux qui sont dans le besoin. Si quelqu'un manque un manteau, donne à cette personne. Galates 6:10 nous dit, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Vous avez entendu sûrement ce verset, mais c'est toujours bien de le rappeler. Pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. D'autre part, les chrétiens devraient agir d'une manière juste devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Nous agissons en accord avec la vérité, nous faisons des choses d'une manière honnête. Le chrétien ne devrait pas être un menteur. Même juste un peu, non. Non, on ne devrait pas être des menteurs. Je me souviens, je travaillais dans un hôtel. Et quand j'étais jeune, et là, il y avait un restaurant avec. Et chaque soir, les dames qui travaillaient là se plaignaient du fait qu'à la fin de la soirée, leurs pieds étaient couverts de poussière. Pourquoi? Parce que l'aspirateur qu'on avait ne marchait pas bien. Ça ne aspirait pas vraiment de les saletés. Et donc, ces moquettes étaient sales. Et on maintenait la lumière dans la salle très basse. On n'a pas vraiment éclairé la salle pour que les gens ne voient pas. Mais vous voyez, et pour nous, il faut vraiment mettre la lumière sur notre vie pour voir ce qui ne va pas. Les saletés, ce qui n'est pas correct dans notre vie. Faisons attention à l'Internet aujourd'hui. Si vous avez besoin de mettre quelque chose qui bride l'Internet et ce que vous recevez sur Internet, c'est important. Mais examinons à notre vie pour voir ce qui ne va pas. mettons vraiment de lumière au maximum pour voir les choses dans notre vie. Ne nous excusons pas. Et Paul parle aussi, regardons versets 3 à 6 dans ce même passage, chapitre 5, il nous parle encore, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on n'entende pas ces choses. Et donc faisons attention à notre langage. Parfois les chrétiens disent des gros mots. Je me souviens une fois que quelqu'un a décroché le téléphone, mais le téléphone ne marchait pas chez eux. Et qu'est-ce que j'entendais la personne dire? Well, je ne vais pas le dire, mais... mais vous voyez, la personne ne pensait pas que je l'entendais. Je l'entendais, elle ne m'entendait pas, mais je l'entendais. Et des fois, les chrétiens disent ces mots, mais ce n'est pas bien. Faisons attention à notre langage, à nos paroles. Évitons les blagues qui sont équivoques. Des choses avec un double sens. Mais cherchons plutôt à employer, comme le texte dit là, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Est-ce que les actions de grâce caractérise votre vie? Je connais même des chrétiens que leurs paroles sont plus des plaintes que des actions de grâce. Soyons des personnes qui cherchent à ne pas se plaindre. Quelqu'un a parlé l'autre jour des chrétiens au Nigeria. C'est un pays où les gens souffrent beaucoup. Je pense qu'il y a le plus de monde tué maintenant au Nigeria que dans n'importe quel autre pays du monde. Et la personne qui était là a dit, les gens ne se plaignent pas. Oh, ils sont joyeux. Et ils ont très peu. Et ils sont joyeux. Voilà, quel défi pour nous. Je sais que c'est un passe-temps français de se plaindre, n'est-ce pas? On aime bien se plaindre. Mais ce n'est pas une bonne chose devant Dieu. Oh, cherchons à ne pas... à mettre le doigt sur les lèvres pour ne pas nous plaindre. Mais pour être des enfants de lumière, faisons attention à nos propos, au travail, dans le voisinage. Ne soyons pas les gens en train de raconter des choses sur les autres. Donc, Paul encourage les chrétiens aussi de dénoncer même des œuvres stériles, ce qui n'est pas bon, ce qui est infructueux, verset 11. En dénonçant ces choses, ils deviennent lumière dans le sens qu'ils peuvent éclairer les autres quand on les expose pour ce qu'ils sont. Mais vous avez peut-être entendu dire que certaines personnes ne lisent jamais la Bible, mais il y a un livre qu'ils sont en train de lire et c'est vous. Si vous vous dites chrétien, vous êtes une Bible lue par les autres. Ah oui. Et n'imaginez pas que les gens ne savent pas comment vous devez vivre. On s'imagine ça des fois. Vous connaissez cette histoire dans Genèse chapitre 20, où justement, à nouveau, Abraham était en train de dire que Sarah était sa sœur. Et Abimelech l'a pris pour être sa femme. Et Dieu est apparu à lui dans la nuit pour lui dire, si vous ne rendez pas cette femme à son mari, tu es un homme mort. Et donc, il est rendu... Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham en rendant à Sarah? Il a dit, tu nous as fait ce qui ne devrait pas se faire. Oui, qu'est-ce que tu imaginais en faisant un tel coup contre nous? Et c'est dommage quand les gens du monde nous disent,
tu t'appelles chrétienne et tu agis comme ça? Oh, ça fait mal. Ah oui, ça, je pense que ça m'est arrivé une ou deux fois dans nos vies. Ah oui, ça fait mal. Et donc, vivons comme les enfants de lumière. Oui. Donc, faisons ce qui est bien, afin que notre Père soit glorifié. Comme il dit dans Matthieu 5, 16, que les gens voient nos bonnes œuvres qui glorifient notre Père. Et finalement, aujourd'hui, j'aimerais bien attirer notre attention vers un autre aspect. Annonce l'Évangile, le message de la lumière. Et donc, être la lumière du monde est notre mission. En parlant du futur Messie, dans Ésaïe 49. Ésaïe 49 maintenant. Il y a quatre passages qui parlent d'un serviteur de Dieu qui serait Jésus-Christ. On a déjà regardé un tout petit peu Ésaïe 42, 6, qui fait partie de ces textes 42, 1 à 6 ou 1 à 9. Et puis 49, chapitre 49 ici, il y a un autre passage qui parle de Jésus-Christ. Et encore Ésaïe 53, tout le monde connaît Ésaïe 53 et aussi Ésaïe 50. Mais dans Ésaïe 49 là, nous lisons là, on peut dire verset 5, on va lire verset 5 là pour revoir un peu le contexte. Maintenant l'Éternel parle qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël. Encore dispersé, et le peuple de Dieu était dispersé au premier siècle et même avant, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit ça de ce futur serviteur. Mais c'est bien intéressant que Paul cite ce texte dans Acte 13. Regardons Acte 13 maintenant. Paul cite ce texte dans Acte 13. Dans Acte 13, Paul, il était, je pense qu'ils étaient à Antioche de Pisidie. Et il présentait l'Évangile aux Juifs et aux gens dans la synagogue là. Et verset 44, le sabbat suivant, 13:44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemble pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils se posaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Et Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, parlant aux Juifs, que la parole de Dieu devrait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Paul, il se trouve dans ce commandement maintenant. Il se voit dans ce « te ». Lui et aussi Barnabas, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Et je dirais quelque part pour nous, le chrétien se trouve dans ce « tout aussi ». C'est à nous aussi. Nous sommes choisis pour annoncer le message de l'Évangile. Paul et Barnabas, en se tournant vers le païen, c'est comme si une bougie en illuminait une autre. La première bougie ne perd rien de sa lumière en allumant une autre, mais la lumière se multiplie. Et nous sommes appelés à cette même multiplication de la lumière en annonçant le message de l'Évangile. Alors soyons zélés pour annoncer l'Évangile. Paul dit dans 2 Corinthiens 5 aussi, regardons 2 Corinthiens 5, encore un texte qui parle de notre rôle de porter la lumière aux autres. 2 Corinthiens 5. Et là, il parle du fait qu'il avait le ministère de la réconciliation. Regardons verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 17 a parlé du fait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cette personne est réconciliée, verset 18, avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et le message, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pensons à ça. Aujourd'hui, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Où que vous alliez, vous êtes un ambassadeur pour Christ. Vous savez que les ambassadeurs, des fois, il y a des histoires autour des ambassadeurs. Parce que souvent, ils ont une certaine immunité dans le pays où ils demeurent. Ils peuvent faire des bêtises et rien ne se passe. Mais pour nous, nous aurons des comptes à rendre à notre roi un jour. Nous sommes des ambassadeurs. Et donc, la Bible décrit l'homme comme ennemi de Dieu par ses actions qui sont contraires à la nature de Dieu. On voit ça dans Romains 5, verset 10, que nous sommes en enmity avec Dieu. Mais nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Christ. Et la réconciliation arrive lorsque nous nous détournons du péché et nous mettons notre foi dans la mort de Christ pour nos péchés. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais fait cet acte de venir à Christ. Et donc c'est la décision la plus importante de la vie. Il n'y a rien de plus important. Le mariage, c'est important. Le travail, c'est important, mais le fait de venir à Christ, c'est encore plus important. Et donc, c'est la décision la plus nécessaire, je dirais, de la vie. Et puis, en tant que personne réconciliée avec Dieu, nous devenons des ambassadeurs, proclamant Christ. De ce message de réconciliation avec les autres. Paul a parlé dans 2 Corinthiens 4, regardons, on tourne juste une page là, 2 Corinthiens 4, versets 3 à 5. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc, l'évangile peut être caché autour de nous, surtout si on n'annonce pas. Si on n'est pas en train d'annoncer Christ aux gens autour de nous. Le texte parle du fait que le Dieu de ce siècle, le diable, en train de œuvrer contre nous. Rappelons-nous dans les paraboles de Jésus, il a parlé dans Matthieu 13, 19, que le diable vient et enlève ce qui était semé. Donc nous luttons contre le diable. C'est pour ça que la prière est importante dans notre travail. On devrait être en train de prier par rapport à ce qu'on sème. Mais qu'est-ce qui nous empêche souvent d'annoncer l'Évangile? Qu'est-ce qui nous empêche? Peut-être la crainte, n'est-ce pas? Jésus a parlé de la crainte. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Oh. Et Jésus a dit dans ce même passage que le Saint-Esprit est celui qui parlera à travers vous. Et nous avons la mission de Jésus. C'est clair dans Matthieu 28, 18 à 20, d'aller faire des disciples. Et ça implique l'idée de parler justement autour de nous. Regardons dans Acte 4, juste pour un instant, Acte 4. Où il parle là du fait que les gens ont prié. Pierre et les apôtres avaient été traînés devant le Sanhédrin. Et justement, ils ont dit qu'ils devraient annoncer Christ et ne pas écouter leurs autorités. Et donc, il dit dans le verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Et je pense que ça, c'est un grand besoin pour nous de chercher continuellement, être dirigé par l'Esprit. Ne pas être sous l'emprise de la crainte, mais plutôt être dirigé par le Saint-Esprit. Mais comment pouvons-nous présenter l'Évangile d'une manière à nos collègues de travail ou nos voisins? Comment est-ce qu'on pourra aborder le sujet? Je dirais qu'on a besoin d'être des personnes qui sont des étudiants de comment le faire aussi. Et de prier, « Seigneur, aide-moi aujourd'hui de voir les ouvertures avec les gens, au travers de leurs problèmes. » Parce que les gens ont des difficultés. Les gens cherchent délivrance de leurs problèmes. Qui est celui qui délivre? C'est Jésus. On peut le diriger vers Jésus, celui qui délivre. Et encore, les gens, ils cherchent. Ils savent qu'il y a certaines normes qu'ils devraient observer. Ils savent qu'il y a certaines normes qu'ils devraient observer. Ils s'attendent à ce que vous vivez d'une certaine manière. Et Jésus nous a montré la norme ultime. Qu'est-ce que c'est la norme ultime? L'amour. Ah oui, Jésus, et pour nous de diriger les gens vers Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis en train de lire ce livre ici. Je vous le recommande par Daniel Strange, « La force d'attraction de la foi chrétienne », où il aborde les grandes questions de la vie, la délivrance, la norme, être supérieur, le destin. C'est-à-dire, même les gens de ce monde voient des fois, il y a presque comme quelqu'un d'autre qui contrôle ce qui se passe. Et on peut les diriger vers Dieu. Donc, je vous encourage, vous pouvez trouver ça à la maison de la Bible. Daniel Strange, Strange en français peut-être. La force d'attraction de la foi chrétienne. Mais je vous recommande ce livre. Mais Jésus savait le faire. C'est intéressant avec la femme samaritaine, n'est-ce pas? Il arrive à un puits et... Il arrive à midi. Il a dit qu'il faut que je passe par le Samaria. Ah oui. Parce qu'il avait un rendez-vous avec cette dame à l'insu de tous. Et justement, il arrive là. Il demande de l'eau à cette femme. Et il a dit ensuite, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit... L'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Il a pris un sujet, un besoin de cette femme, ou de lui-même même. Il avait besoin de l'eau. Et il a tourné la conversation vers, justement, le besoin de cette femme. Et il a suscité une curiosité là. Et elle a dit, vous n'avez rien pour puiser, comment est-ce que vous allez donner de l'eau? Mais donc, Jésus a suscité une curiosité chez cette femme. Et la femme a demandé cette eau, afin qu'elle n'ait plus besoin de retourner au puits. Et puis, Jésus a mis son doigt sur son problème quand même, n'est-ce pas? Il a dit, va chercher ton mari. Et elle a dit, oh, j'ai pas de mari. Et il a dit, c'est vrai, tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il a mis son doigt sur le problème de cette femme et son besoin de changer de direction. Mais cette femme et d'autres Samaritaines viendront à la fois à cause de cette conversation. Mais cherchons, soyons des étudiantes de comment aborder les gens. Créer une curiosité. Ah oui. Parfois, les gens me demandent, qu'est-ce que vous faites ici en France avec votre accent et tout ça. Je dis, et je leur dis souvent, mon travail, c'est d'aider les gens à voir ce qu'ils ne voient pas. Et donc, ils se posent des questions, mais tu fais quoi? Mais c'est vrai, j'essaie d'aider les gens à voir ce qu'ils ne voient pas, c'est-à-dire Dieu. Et donc, des fois, je parle de l'architecture d'un bâtiment, on n'a jamais vu l'architecte, mais on sait que l'architecte existe parce que le bâtiment est là. Il y a plein de choses comme ça. Oh, cherchons, soyons des étudiants de comment on peut aborder le sujet de l'Évangile d'une manière qui intéresse les gens. Juste pour finir aujourd'hui, quelle est la réponse du monde à la lumière? Et c'est ça qui ne devrait pas nous étonner. Selon Romains 1, 18, Dieu se révélait à l'homme à travers la création, mais l'homme refuse cette lumière que Dieu a donnée. Le texte dit que sa puissance éternelle et ses perfections invisibles se voient à partir de sa création. Mais l'homme refoule cette preuve dans son esprit et rejette la révélation divine. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit que Jésus était la lumière qui est venue dans le monde, mais les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et nous annonçons le message, mais nous nous rendons compte aussi que beaucoup de gens vont refuser la lumière. Mais notre rôle n'est pas forcément d'avoir des résultats. Notre rôle, c'est d'être une lumière pour éclairer les gens, pour que les gens commencent à comprendre. Et donc, en tant que chrétien, il faut assumer le fait d'être rejeté. Si vous osez parler de Christ, les gens ne vont pas toujours apprécier ça. Parfois oui, souvent non. Mais ça fait partie de notre rôle. Et donc il faut accepter le fait que nous serons refusés, comme Jésus. Est-ce que Jésus a été refusé par les gens? Oui, et rejeté. Et donc nous devrions assumer ça. Mais reconnaissons que nous sommes des lumières de ce monde pour diriger l'homme vers le message qui sauve. Vivons comme les enfants de la lumière en nous conduisant correctement, que les gens ne peuvent pas nous faire des reproches par rapport à notre façon de vivre. Ça, c'est dommage si on ne vit pas correctement. Et rappelons-nous que ce que Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Des fois, je prie souvent, Seigneur, montre-moi celui que tu cherches. Oui, c'est ça. C'est, je prie, Seigneur, dirige vers moi celui que tu cherches, parce qu'il est en train de chercher des gens. Je suis convaincu que même aujourd'hui, c'est lui qui cherche les gens. Et donc à nous de prier, Dieu, montre-moi celui que tu cherches. Et donc, cherchons l'œuvre de l'Esprit à travers nous. Si aujourd'hui, vous entendez ce message et vous n'avez pas encore cru, peut-être le Saint-Esprit est en train de vous dire, oui, ce qu'il dit est vrai, Christ est le chemin, la vérité, la vie. Oui, il est mort pour vos péchés. Croyez en lui. Je vous encourage à venir voir Michel après le culte, moi-même, mais venez à Christ. Il veut vous sauver. Et donc, venez à lui dès aujourd'hui. Voilà, on va terminer là. Je vais redonner la parole à celui qui prend la suite là.